Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite. Bonjour Jacqueline.
Bonjour à toutes et à tous. Et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons commencer une série d'émissions sur les voyages d'Alexandra David-Nel. C'est le 9 août 1911 qu'Alexandra quitte Tunis pour son grand voyage en Asie qui durera 14 années. Nous voyagerons donc avec elle pendant quelques semaines. Mais pour se résumer, avoir un bref aperçu de son parcours, voici déjà quelques repères dans les grandes lignes. Dès septembre 1911, elle est à Ceylan, qu'on appelle aujourd'hui le Sri Lanka, enfin depuis 1972. 1912-1913, elle est au Sikkim, à Madras, au Népal. Puis 1914-1915, elle va passer des mois au Sikkim, dans une caverne ermitage à 4000 mètres d'altitude. En juillet 2016, elle fait déjà une incursion clandestine au Tibet, mais elle se fait expulser. Et puis, de 1918 à 1921, elle séjourne au monastère de Kumbum, au nord du Tibet. Et puis enfin, c'est sa longue marche en mendiante vers Lhasa, d'octobre 1923 à mai 1924. Et c'est le retour, au Havre, le 10 mai 1927. C'est un périple de 14 années. C'est à partir de l'énorme correspondance à son mari, Philippe Nel, qu'il est ainsi possible de la suivre dans son immense périple au jour le jour. D'ailleurs, elle avait demandé à Philippe de lui conserver ses lettres pour en faire plus tard des livres. Des livres. Enfin, aujourd'hui, nous évoquerons son départ de Tunis jusqu'à sa rencontre avec le 13e Dalai Lama en avril 1912. Mercredi 9 août 1911, départ de Tunis avec Philippe qui va l'accompagner jusqu'à Bizerte. Et le lendemain, jeudi 10 août, elle prend le bateau jusqu'à Marseille et écrit sa première lettre à Philippe. Elle se plaint de la saleté du bateau, de la très grosse chaleur. Elle se sent fiévreuse et fatiguée. Elle commence un peu à douter. Et alors, est-ce que vraiment je suis en route pour Ceylan? Je n'en ai pas réellement la sensation. Le lendemain, vendredi 11 août, elle est arrivée à Marseille, à l'hôtel Beauvau, qui existe toujours d'ailleurs, hein, c'est au port, sur la place là du port. Nouvelle lettre à Philippe, dans laquelle elle lui fait part de ses doutes quant à sa décision de partir, ce qui est totalement humain, mais aussi c'est un peu inimaginable de la part de cette grande exploratrice avec le caractère que nous lui connaissons. Et là, je la cite. « Tu ne sais pas, petit très cher, l'idée qui m'a traversé la cervelle, c'était de planter tout là et de m'en aller à Vichy sans rien te dire pour te faire la surprise de t'y retrouver. Ce serait bien gentil, mais sans doute bien enfantin aussi. La douleur suit les actes qui ne sont pas minutieusement passés au crible de la raison. Et cela serait-il raisonnable de renoncer maintenant à ce voyage préparé de longue date ? Et à tout ce qu'il comprend d'études profitables et de relations utiles. Cela serait-il sage de briser les jalons déjà posés dans ma carrière d'orientaliste, de paraître une girouette que personne ne prendrait plus ensuite au sérieux? Et puis, ne serait-ce pas renoncer à écrire de nouveaux ouvrages? Mon stock de connaissances à répandre est épuisé. Il me faut le renouveler, l'étendre pour apporter au lecteur autre chose que des redites ou des banalités. Il y a une place très honorable à prendre dans l'orientalisme français, une place plus en vue et plus intéressante que celle des Leuzy et autres. confinés dans leur érudition sèche et morte. Cette place, j'ai senti qu'elle venait à moi. Si ma persévérance et mon travail étaient suffisants, je n'aurais qu'à la prendre. À toi, une grande pensée de tendresse, mon Ouchi, à qui je voudrais faire comprendre bien des choses difficiles à exprimer, bien des choses qu'on ne s'explique pas bien soi-même. Effectivement, Alexandra avait besoin de son voyage pour continuer à écrire, à agrandir la réputation qu'elle avait déjà acquise. Elle avait d'ailleurs obtenu une mission du ministère de l'Instruction publique pour ses recherches en Asie. Et il y a d'ailleurs un dossier aux Archives nationales. En septembre, octobre, novembre 1911, elle est à Ceylan, donc le Sri Lanka aujourd'hui. Elle écrit à Philippe. J'ai été encore au Bow Tree, le plus vieil arbre historique du monde. Lui-même est plutôt chétif, mais comme c'est un multipliant, sa famille occupe autour de lui un vaste espace, avec la multitude des lampes antiques. Disposé dans les niches des murailles, c'était très beau, très impressionnant. Je suis restée là longtemps à regarder, puis je suis allée me coucher. Le Bow Tree est un arbre qui appartient aux gens futurs, et dans le bouddhisme, il s'agit de l'arbre de la Bodhi, donc un arbre de tout à fait beaucoup d'importance. 22-23 novembre 1911. Alexandra est à Trichinopoly, au sud de l'Inde. Elle écrit à Chili « Où est mon Inde d'antan, ardente, calcinée, avec son ciel vert terrible et ses routes où la poussière tourbillonnait en poudre d'or dans les brefs et rougeoyants crépuscules. Il y a des nuages bas, uniformément gris, des arbres verts, des champs verts, trop verts, des routes boueuses où les roues enfoncent en faisant gicler une eau rouge brique et des averses qui vous transpercent, des nuits où l'on grelotte, recroquevillé dans ses couvertures. Je suis allée ce matin à des temples cités en dehors de la ville et au retour, j'ai gravi les 300 marches menant au sommet du roc où trône Ganesh. Piteux tout cela. La pluie a changé la tonalité des couleurs. L'Orient, sans soleil, n'est qu'un mont fond d'immondices. Aussi, je renonce à voir Tanjore et reprends l'express de nuit ce soir pour Pondichéry. Mais Alexandra sera récompensée, car dans le train, elle rencontre par hasard un brahmane qui lui demande l'autorisation de venir dans son compartiment. Et elle écrit « La conversation en venant à Rameshwaram, d'où j'arrivais, aux divinités, nous sommes tombés dans la philosophie. Avec un hindou, cela en arrive toujours là et très vite. À un moment donné, au sujet d'une citation, j'ai tiré la Bhagavad Gita en sanskrit de mon sac et immédiatement, j'ai conquis l'estime de mon compagnon de route. Je lui ai dit le but de mon voyage et il m'a répondu que si je voulais passer la journée du lendemain à Madura, il ferait venir chez lui le professeur qui explique les Védas au temple et que je pourrais causer avec lui. La proposition me plaisait trop pour refuser. L'après-midi, je suis donc entrée dans cette maison de Brahman, ce qui est assez exceptionnel, car leur caste leur interdit de recevoir chez eux des étrangers. Mon hôte est une sorte d'avocat notaire. Bon, chez lui, c'est rudimentaire et barbare. Mais dans ce décor, où flottent des relents de parfums de temple, les mêmes que l'on brûle sur l'autel familial, du jasmin, encens et huile et beurre rancis, nous parlons de ces choses inexprimables en nos langues occidentales et qui, heureusement, me sont familières sous leur nom sanskrit. Le 3 décembre 1911, Alexandra est à Madras. Elle est reçue à déjeuner, elle écrit même à lyncher, chez le gouverneur qui l'installe à sa droite comme le veut la courtoisie. Mais comme tout au long de son périple de 14 années, Alexandra a très souvent des ennuis de santé. Et cette fois, il s'agit d'un mal à l'oreille. Où écrit-elle ? Un abcès interne, vraisemblablement, dont j'ai souffert au Tonkin, et dont je t'ai souvent parlé comme de la plus grande douleur physique que je n'ai jamais éprouvée. La nuit dernière a été extrêmement pénible, et je commence à sentir que celle-ci va lui ressembler, car, de même qu'autrefois, c'est la nuit que je souffre le plus. J'ai pu constater que j'avais fait quelques progrès en philosophie, en comparant ma différence d'attitude dans ces deux circonstances identiques. Il n'y a pas d'infirmerie ici. Pas moyen de me procurer de l'eau chloroformée ou cocaïnée dont j'avais usé. J'ai essayé un peu d'eau de banjoin que je lodanise et applique au moyen d'un peu de ouate glissée dans l'oreille. Ce n'est pas extrêmement réjouissant, on dirait qu'on m'arrache la tête. J'ai pris de la quinine pour combattre la fièvre. Cette nuit, j'ai serré du pyramidon pour calmer la douleur. La nuit précédente, j'ai simplement étudié un traité de yoga qu'un brahmane m'avait apporté. En avril 1912, Alexandra apprend que le Dalai Lama, donc le 13e, séjourne à l'extrême nord du Bengale. Alors, Alexandra décide d'obtenir une entrevue, d'autant qu'elle apprend que ce haut dignitaire n'a jamais donné d'audience à une femme occidentale. Elle se réjouit surtout que cela lui permette d'approfondir certains points de doctrine. La veille de la rencontre, elle écrit à Philippe « C'est demain que je suis présentée au Dalai Lama. C'est évidemment un événement pour moi, car être reçue par le pape d'Asie est, pour une Européenne, beaucoup moins banal que d'être reçue au Vatican. Pour lui aussi, c'est un événement, puisque je suis la première femme d'Occident qu'il consent à recevoir. Aussi, il a fallu, comme chez les Romains, choisir un jour et une date faste. J'ai préparé une série de questions à le poser. Quel individu vais-je trouver? On m'a fait pressentir pour savoir si, comme Européenne, je tenais à avoir une chaise, ou si, comme bouddhiste, je voulais bien m'asseoir sur un coussin, sur le tapis, à l'oriental. J'ai dit que je n'avais cure de ces détails, que je venais pour apprendre le plus possible sur le lamaïsme et que le premier ministre s'asseyant sur le tapis, je ne me sentais nullement humiliée de m'y asseoir aussi, suivant la coutume du pays. Je pense qu'il tient à me bénir, parce que tout d'abord, Lendenla, alors Lendenla, c'est celui qui va la suivre tout au long, qui est le secrétaire particulier du Dalai Lama. Donc le Ladala lui avait dit, les fidèles s'agenouillent devant lui pour qu'il les bénisse, et il avait été convenu que je ferai une révérence de cour, ne voulant pas m'agenouiller, et que je me passerai de bénédiction. Mais hier, après avoir reparlé avec le Dalai Lama et son entourage, Lendenla me dit, quand vous aurez salué sa sainteté, approchez-vous, il posera sa main sur votre tête pour vous bénir. Et très vite, il ajoute, vous n'aurez qu'à vous incliner en signe de remerciement. C'est évidemment le pape ou ses gens qui l'ont fait dire cela. Enfin, béni ou non, je suis enchantée de ma bonne fortune. Revenir avec une étude sur le lamaïsme faite auprès du Dalai Lama, c'est ça qui serait mirifique comme travail orientaliste. Malheureusement, sa sainteté jaune est très absorbée par ses soucis politiques et a sans doute peu de loisirs à donner aux discussions philosophiques. Mais nous verrons bien. Le lendemain, le 15 avril, donc le jour de la rencontre, 15 avril 1912, il écrit le soir même à Philippe. Voici la comédie jouée, mon bien-cher. J'ai vu le pape jaune ce matin. Réception cordiale, autant que quelque chose ressemblant à de la cordialité puisse exister entre gens de civilisation et de mentalité si différentes. On n'approche pas de la demeure pontificale au véhicule. Mes porteurs me déposent au commencement d'une sorte d'avenue jalonnée de longues perches portant des banderoles. Deux agents de la police urbaine montent la garde devant la maison. Cette maison est une bâtisse à un étage, pas très vaste, peinte de différentes couleurs et d'aspects propres, un salé campagnard. Beaucoup de curiosité m'accueille. Je suis dévisagée par nombre d'yeux noirs bridés. Sur le seuil, un chambellan m'accueille. Il est un peu crasseux, le chambellan. Un peu seulement, mais parmi les familiers et servants accourus, il y en a dont les vêtements disparaissent sous une telle couche de crasse luisante qu'ils semblent vêtus de bronze. L'intérieur de l'habitation paraît cependant propre. Il paraît aussi pauvre et nu. Nous montons à l'étage. Lendenla ouvre une porte et, subitement, je me trouve devant le grand Manitou. C'est si brusque, je m'attendais à une antichambre, que j'hésite un instant à tirer ma révérence au personnage qui est assis sur une simple chaise près de la fenêtre. Mais comme j'ai vu son portrait, je le reconnais et je salue. D'ailleurs, on me pose sur les mains la fameuse écharpe voulue par le protocole et je m'avance pour la présenter au Dalai Lama. Une sorte de grand diable, ministre ou chambellan, m'en débarrasse d'ailleurs avec un empressement. J'ai oublié la bénédiction. Mais Lendenla me souffle avec anxiété, est-ce que vous ne voulez pas qu'il vous bénisse? Je sens que je froisserai mes gens en disant que je ne m'en soucie pas. Je baisse donc la tête, car le Dalai Lama est assis et il n'est pas très grand. Et il me met assez lourdement, ma foi, la main sur les cheveux. Me voici bénie, et voilà son amour propre satisfait. Sur ce, nous commençons, ou plutôt, il commence à causer. Il me pose naturellement la question invariable. Depuis combien de temps je suis bouddhiste et comment je suis devenue? Mais son cerveau tibétain comprend difficilement qu'on puisse devenir bouddhiste sur les bancs d'une université européenne en étudiant la philosophie orientale. Que je n'ai pas eu de gourou, d'instructeur, le dépasse. Et je lui dis, mais quand j'ai adhéré au principe du bouddhisme, je ne connaissais aucun bouddhiste. Et peut-être étais-je la seule bouddhiste dans Paris. Tout de même, il rit et me dit que c'est là, en effet, une excellente raison pour m'être passé d'instructeur. Nous causons de différentes choses. Il a l'air d'être d'un naturel assez gai. Ce n'est pas un imbécile, évidemment, mais ce n'est pas un intellectuel à notre manière. Il est évidemment infatué de sa grandeur, d'autant plus que les Chinois ont réduit cette grandeur à peu de choses. En réalité, c'est le chef de l'église lamaïste seulement. Enfin, après avoir causé 3 quarts d'heure, nous arrivons à la solution suivante qui me convient tout à fait. Je prépare des questions qu'on traduit en tibétain, je les lui fais passer et il répond. Je vais posséder là des documents d'une sérieuse valeur au point de vue orientaliste, je n'en espérais pas autant. Je prends congé, révérence. C'est comme à la cour, il ne faut pas se retourner et montrer son dos. On nous apprenait ça à mon pensionnat et je l'ai pratiqué avec la défunte reine des Belges. Il n'y a du reste pas de crainte de se heurter, les meubles sont absents. J'ai commencé le mouvement, l'entraînement me le fait dévider en entier et je fais à la porte la dernière révérence protocolaire dans les cours d'Occident, puis l'on redescend. La junte pontificale me regarde avec respect et ébahissement pour être restée si longtemps à causer avec l'incarnation du Bouddha. Et moi, je pense que tout cela fera un bien joli article pour le journal Le Mercure. Et voilà, cette rencontre qu'Alexandra évidemment attendait, elle le reverra d'ailleurs plus tard. Elle attendait vraiment cette rencontre avec le Dalai Lama. Mardi prochain, nous serons au Sikkim, en Himalaya, à plus de 4000 mètres d'altitude, et toujours avec Alexandra David-Nel.